Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui s'appelle « La cigale et la fourmi ». Et pourtant, ce n'est pas une fable de La Fontaine. D'ailleurs, je vais aussitôt la rebaptiser. Ce n'est pas « La cigale et la fourmi », mais « La fourmi et la cigale ». Qu'est-ce donc que cette fable ? Eh bien, je vais laisser notre invité du jour, Claude Aziza, vous en parler très rapidement. C'est « La cigale et la fourmi » ou « La fourmi et la cigale » dans le péplum. Car Claude Aziza, que nous entendons souvent sur les ondes d'Antiquissimo sur Radio Alliance Plus, est bien évidemment ce spécialiste du péplum que vous connaissez, cet historien de l'Antiquité que vous connaissez aussi, et que vous allez entendre évoquer un anniversaire. C'est assez souvent, Claude, qu'en début d'année, nous aimons fêter les anniversaires. Ça veut dire qu'en fait, nous cherchons les gens qui, pour l'année qui nous correspond, ici 2026, pourraient avoir fêté leur anniversaire de 100 ans. C'est ça ?
C'est exactement cela. Et nous avons la chance d'avoir deux naissances en 1926. Et il se trouve que ces deux naissances, ce sont celles des deux plus grands acteurs du péplum, deux magnifiques athlètes, l'un qui s'appelait Steve Reeves et l'autre qui s'appelait Gordon Scott.
Alors, nous allons les évoquer tous les deux à tour de rôle et peut-être le mot est confronté serait peut-être est un peu excessif, mais nous allons les mettre en regard l'un de l'autre. Que pouvons-nous dire du premier, déjà ? Évoquons un petit peu sa vie.
Alors le premier, c'est celui que j'appellerais la fourmi. Sans que le terme soit péjoratif, bien entendu, le premier, c'est un magnifique athlète.
Oui, vous avez même dans certains articles que vous commettez assez souvent sur le sujet, évoqué son poids et sa taille.
Hein, c'est là, vraiment. Je vous le redonne. Taille 1m85, poids 95 kg.
Belle bête, hein.
Tour de poitrine 117,5 cm. Monsieur America en 1947. Monsieur Monde en 1950, et la même année, Monsieur Univers.
Alors tout ça, ça nous mène au péplum alors ? Être un grand monsieur baraqué ?
Pas tout à fait quand même, parce que quand je vais vous dire la suite, je crois que ça va être un petit peu moins amusant. 6 heures d'exercice par jour, pas d'alcool, pas de cigarette, couché à 22 heures, 10 heures de sommeil par nuit, et c'est pas fini. 3 fois par jour, 10h, 14h, 22h, 33 centilitres de lait non écrémé à 37 degrés.
Mais pas du lait d'ânesse, attention.
Pas du lait d'ânesse, nous ne sommes pas avec Popé. Pas de pâte, que Steve Reeves appelait la mort blanche, carottes râpées, œufs crus, grillades, 2 kg de salade par jour, pas de lipides, des protéines, toujours des protéines.
Et c'est une vie, ça ?
Ah ben, c'est une vie. C'est une vie. C'est-à-dire que c'est la vie d'un étudiant.
Oui, parce qu'il n'est pas parti de rien. Hein. C'est un étudiant.
C'est un étudiant en physiothérapie qui est né dans le Montana et qui a eu toute sa vie qu'un seul désir, c'est d'acheter un ranch dans son Montana de naissance. Et donc,
ce qu'il fera finalement, je crois.
Ce qu'il fera finalement. Donc finalement, la télévision et le cinéma lui font les yeux doux. Cecil B. DeMille pense qu'il pourrait incarner Samson, mais finalement il préfère Victor Mature.
Moi, je crois que j'aurais préféré Steve Reeves, mon frère.
Oui, moi aussi. Et puis, alors, Reeves fait beaucoup de pubs où il vend des images, des pilules, des produits. Et puis, il tâte de la comédie musicale. Il fait partie des fameux Boys de Mae West, c'est-à-dire les plus beaux garçons d'Amérique. Et puis, en 1951, il a un petit rôle dans une comédie musicale qui s'appelle Athéna et les 7 sœurs.
Ah, alors et là, puis, ça y est, on était dans l'Antiquité.
Et puis, Un jour, la fille d'un réalisateur italien, Pietro Fonschischi, le remarque dans une pub. Elle semble être tombée amoureuse, si l'on peut dire, c'est une gamine, hein, de lui, et puis elle en parle à son père. Or, Reeves a de la chance, d'abord parce qu'en 1955, il y a le fabuleux succès de Ulysse de Camerini avec Kirk Douglas, et puis Fonschischi a déjà écrit des péplums, il a fait une Reine de Saba avec une jeune débutante qui est Gina Lollobrigida, et il a fait aussi un Attila avec Sophia Loren, toujours débutante. Et alors en 1957, et j'en arrive au point culminant, Les Travaux d'Hercule.
Voilà.
Triomphe. Et l'année suivante, en 1956, suite Hercule et la Reine de Lille.
Donc il était parti dans un grand cycle Hercule.
Oui, mais Hercule et la Reine de Lydie, qui n'est pas n'importe quoi, car c'est l'adaptation au cinéma des sept contre-têtes de Sophocle.
Oui.
Tous ces réalisateurs, scénaristes, sont pétris d'antiquité. Hein. Faut pas oublier de cela. Et alors, là, Steve Reeves est intelligent. Il n'a pas envie de rester toute sa vie Hercule. Donc, il décide d'abandonner le rôle. Il a donné une image d'Hercule qui est tout à fait fausse.
Oui, bien sûr.
Voilà, bien taillé, vertueux, de manière très noble. Mais alors,
on est loin d'Hercule, ivrogne.
Ivrogne. Et puis alors, il décide de passer dans tous les rôles qui conviennent à sa plastique. Le film d'aventure, La Charge des Cosaques. Le Merveilleux Oriental, Un voleur de Bagdad extraordinaire. Mais tout en restant dans le rôle antique, et il sera un merveilleux Romulus dans Romulus et Rémus. Et on verra tout à l'heure qu'il affrontera Rémus. Et ce Rémus, ce sera son ami, c'est ton ami, et rival Gordon Scott. On y reviendra. Et puis, il va jouer le coureur de Marathon dans la bataille de Marathon. Est né dans la guerre de Troie, c'est quand même assez extraordinaire, le fils de Spartacus, le héros,
oui,
évidemment, encore est né dans la suite de la guerre de Troie, c'est-à-dire conquérant héroïque, est né et Carthage, et puis alors, le film de Corsair, Captain Morgan, et encore une fois, le film d'aventure, alors, tiré des exploits d'un héros qui s'appelle Sandokan. Et c'est Sandokan, le tigre de Bornéo. Ce héros Sandokan s'est tiré de l'œuvre de l'Alexandre Dumas italien qu'on appelle Emilio Salgari. Mais finalement, sa carrière...
elle était bien remplie jusqu'alors.
Elle est bien remplie, mais il a laissé échapper dans sa vie deux occasions extraordinaires. On lui propose de jouer James Bond à la place de Sean Connery, il refuse, et surtout un metteur en scène italien qui n'aime pas beaucoup, que Sergio Leone,
oui,
lui dit voilà, on va lancer une série de western avec un drôle de héros qui est parasé, qui s'appelle Blondin, et il refuse d'être ça parce qu'il n'imagine pas d'être crasseux,
intimidé, crasseux, voilà. Oui.
Et c'est évidemment, vous avez compris, qui va faire ça, c'est Clint Eastwood.
Mais oui, enfin, ça, on sait bien Clint Eastwood dans,
oui,
son...
c'est bien, c'est bien. Mais enfin, voilà. Donc, il a laissé échapper ses deux erreurs. Et alors, à ce moment-là, eh ben, sa carrière décline petit à petit. Il n'aime pas Sergio Leone, je l'ai dit. Il ne connaît pas Sergio Solima. Et le troisième Sergio, qu'il connaît bien, c'est Sergio Corbucci.
Oui.
Mais, finalement, il aurait pu se lancer dans le western. Dans le western.
Et là, il va louper le coche aussi.
Et là, il a loupé le coche aussi. C'est-à-dire qu'il n'est pas passé, ce qu'ont fait Kirk Douglas ou Victor Mathieu, il n'est pas passé d'un genre à l'autre. Alors finalement, il va faire une dernière tentative en 68, hein, le temps est passé, et à laquelle il va prendre part en tant qu'assistant metteur en scène, qui s'appelle L'évadé de Fort Yuma. C'est un excellent western, mais en 68, c'est fini. Le péplum est mort depuis longtemps. Le western spaghetti est en train de, est à l'agonie, donc, après 10 ans à Cinecittà, 57-68, il quitte le cinéma, il va susciter des vocations extraordinaires, dont deux de ses élèves, qui seront Arnold Schwarzenegger.
Ah, je ne savais pas du tout
et
ça.
Et Lou Ferrigno, et à ce moment-là, il se retire dans son ranch du Montana et il se consacre à sa passion, l'élevage des chevaux. Finalement, c'était un cow-boy, ce n'était pas un homme du péplum, et il va mourir assez tôt, finalement, d'une grave maladie, car il meurt en 2000, vous voyez que
oui.
Il a 74 ans.
C'était bien la peine de faire tous ces régimes.
C'était bien la peine de faire tous ces régimes, c'était bien la peine de se priver, mais il a laissé le souvenir d'un très bel athlète, très sympathique, très gentil, dont on se moquait parfois. Et Ricardo Freda m'a raconté un jour que Steve Reeves, chaque fois que il devait soulever un stylo, ça lui posait un problème. Et Mylène de Mongeau, que j'ai bien connue aussi, avec laquelle il tourne le coureur de la bataille de Marathon,
oui.
Disait que il était tellement huilé que quand il la prenait dans ses bras, elle glissait, elle ne pouvait plus se retenir, elle glissait sur l'huile,
oui.
L'huile qui, évidemment, à cette époque, on huile beaucoup les corps des athlètes, donc c'est ces petites anecdotes, et je n'ai pas eu la joie de connaître Steve Reeves, j'aurais bien aimé pourtant. Enfin voilà, ça c'est la fourmi, parce qu'il avait fait des économies, là.
Il avait fait des économies et il avait bâti petit à petit,
voilà, il avait bâti petit
sa carrière et sa vie.
Sa carrière et sa vie.
Alors, pause musicale dans le thème et on se retrouve après pour parler de son ami. À tout de suite, Claude Aziza.
À tout de suite.
La fourmi, la cigale. Après Steve Reeves, Gordon Scott, nous sommes repartis dans la deuxième partie de l'émission d'Antiquissimo sur Radio Alliance Plus, consacrée à deux héros du péplum de stars nés en 1926, dont nous célébrons un pseudo centenaire aujourd'hui. Alors d'un côté, on avait Steve Reeves 1m85, là je vous présente Gordon Scott 1m90. On avait 95 kilos. Et cette fois-ci en face, le boxeur, c'est 98 kilos, Gordon Scott. À vous, Claude Aziza.
Et 127 cm de tour de poitrine. Alors, Gordon Scott, c'est quelqu'un qui a été pompier, garçon de ferme, vendeur de machines agricoles, garde du corps, maître nageur.
Pas mal, hein. Alors, donc lui, c'est touche à tout et courageux, apparemment. Alors, oui, tandis que d'un côté, on avait un étudiant et finalement un grand cavalier, hein. Là, on a quelqu'un qui sait tout faire.
Mais au cinéma...
Pompier aussi, vous avez dit, non ? Il a été pompier. Oui, il a été pompier, j'avais lu, oui.
Au cinéma, tenez-vous bien, il a été Tarzan, Hercule, Zorro, Buffalo Bill. C'est pas mal. Et aussi, Massiste et Jules César. C'est encore mieux.
Oui.
Et puis toujours, Rémus, Monsieur Cévola... Et Coriolan, quel est l'acteur dans toute l'histoire du cinéma qui peut afficher un tel palmarès?
Ah oui, une filmographie variée, remplie, époustouflante.
Alors, lui ne fait pas comme Steve Reeves. Il commence aux États-Unis à cause de sa plastique, hein, par Tarzan. Il succède à Lex Barker, qui succédait à Johnny Westmiller.
Oui.
Alors il commence par Tarzan, il commence par un petit Tarzan qui s'appelle Tarzan chez les Soukoulous en noir et blanc.
Ça fait rêver, oui.
Oui, ça fait rêver, en 54. Mais c'est un petit succès tout à fait inattendu. Alors, on l'envoie au Congo belge pour filmer en scope et en couleur, c'est le premier Tarzan en couleur, Tarzan et le safari perdu en 56. C'est pas encore tout à fait un chef-d'œuvre, mais il est très à l'aise. En 58, le combat mortel de Tarzan, où il va retrouver Jane et Boy, et surtout...
Alors Boy, c'est le garçon.
C'est le garçon. Oui. La plus grande aventure de Tarzan en 59, tournée au Kenya, où il va affronter un débutant, Sean Connery.
Oui.
Et en 60, Tarzan le Magnifique, où il doit affronter son successeur, qui sera Tarzan numéro 13, Jock Mahoney. Donc, encore quelques films, et Gordon Scott devient l'égal de Julie Westmiller. Sauf que Cinecittà, en voyant ça, lui fait deux beaux chèques. Et Gordon Scott aime les beaux chèques parce qu'il aime les belles voitures, les beaux vêtements, les belles dames. Et alors, il débute, c'est assez amusant, par le seul rôle négatif de sa carrière. Il sera un Rémus tout en noir.
Ah oui.
Face à Romulus Tivrive.
Oui, on en a parlé tout à l'heure.
Tout en blanc.
D'accord.
Et c'est le blanc contre le noir. C'est... Alors... C'est intelligent, ce Rémus et Romulus est très intelligent parce que il y a le mythe dedans, il y a l'histoire de Tarpeia, parce qu'il y a la trahison, c'est la trahison oui. de Tarpeia et tout. C'est en même temps une espèce de western peplum, parce que c'est la ville aux sept collines, c'est la ruée vers l'ouest, enfin bref. C'est un très très beau.
Mais ce n'est pas la première fois, Claude Lazizac, avec vous, nous établissons des ponts entre western et peplum.
Absolument. Donc, tous ces films sont accessibles. Les Tarzans ne sont pas accessibles en DVD, mais Romulus et Rémus en DVD. Et alors, pendant quelques années, il va passer d'Hercule, qui n'a pratiquement jamais été, hein, enfin, du péplum, mais où il va incarner Maciste. C'est-à-dire, c'est ce héros qui est
du
un
peuple.
Espèce Hercule du peuple, si vous voulez, né en 1914 dans Cabiria. Il sera... Alors, Maciste, il ne faut pas s'occuper des traductions des titres en français, hein, mais il est partout dans le monde. Donc, il va en Chine, il s'appelle le géant à la cour de Kublai Khan.
Oui, parce qu'il y a une flopée hein, de Maciste.
De Ricardo Freda. Il va en Orient, Maciste contre le fantôme, dont je vais bientôt reparler. Il va à Rome, Maciste gladiateur à Rome. Alors, tous ces films sont très intéressants. Par exemple, dans Le Géant à la cour de Kublai Khan, Ricardo Freda, qui est le réalisateur, qui l'a tourné en 1961, va raconter une histoire assez amusante parce que il doit sauter, Maciste doit sauter dans une fosse pour délivrer un malheureux chinois qui est là avec un tigre. Et quand il saute dans la fosse, Freda le voit faire une grimace. Et là, parce que de peur du tigre, le chinois a fait caca sur lui. Et alors, Maciste, quand on dit, tu ne veux pas le prendre. Et Freda l'engueule en lui disant, mais prends-le, tant pis. Bon. Et dans un registre un peu plus sérieux, Maciste contre le fantôme, c'est un péplum psychanalytique. Parce que Maciste lutte contre son double.
Ah oui.
Et son double est méchant. Son double l'attire vers le mal, alors que lui est attiré vers le bien. C'est un magnifique péplum. Malheureusement, il n'est pas tellement accessible. On peut le trouver encore d'occasion, mais c'est vraiment le plus beau des Macistes. Alors, qu'est-ce qui se passe il se passe que finalement, on l'a vu avec Tivrise, le péplum, c'est fini. À partir de 63-64, c'est fini. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est le western spaghetti.
Comme tout à l'heure.
Et un personnage qui réapparaît dans ces années-là, qui est Zorro. Alors, Gordon Scott sera Zorro dans un film absolument infaisable qui est, tenez-vous bien, Zorro contre les trois mousquetaires. Alors là, bon, deux siècles d'écart, hein, c'est pas grave. Et puis, finalement, Scott, beaucoup plus que Steve, va essayer le western. Mais il n'a pas de chance. Il n'a pas de chance parce qu'en 64, vous voyez déjà où on est,
oui.
Il va incarner Buffalo Bill dans un extraordinaire film qui s'appelle Buffalo Bill, le héros du Far West. Le problème, c'est qu'il tombe mal. Pourquoi ? Parce que ces années 64-65, il y a déjà, on va mettre à bas tous les mythes. Et le premier qu'on va essayer de détruire, sottement d'ailleurs, c'est Buffalo Bill. D'ailleurs, c'est pas pour rien, c'est-à-dire qu'on arrive au moment où, en 70, le temps de la dérision avec Little Big Man,
on oui.
a une image très négative de Buffalo Bill, et surtout, c'est en 76, Buffalo Bill et les Indiens de Robert Altman qui détruit totalement le mythe. Donc, le film n'a pas de succès, le public n'est pas touché, et il faut bien dire aussi que ce Buffalo Bill ne fait pas partie du folklore italien, si vous voulez. Alors, à ce moment-là, il y a une espèce de regain assez extraordinaire, toujours dans ces années 60, dans Cléopâtre, une reine pour César.
Ah, on est quand même revenu à l'Antiquité.
Il incarne, alors ça c'est très bien, il incarne César. Mais il incarne César d'une façon extraordinaire. Cléopâtre est jouée par Pascal Petit.
Oui.
C'est l'histoire de, en fait, de Cléopâtre et de Pompée. Si vous voulez. Elle est jouée par Pascal Petit. Et à la fin du film, on l'emmène dans un tapis, d'où elle sort nue. Et là, il y a les bras croisés, Jules César qui la contemple. Et Jules César, c'est Gordon Scott. Mais c'est pas fini. C'est vraiment pas fini. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il revient au personnage de héros de la République romaine. Et on a, toujours en 63, il joue au personnage de Coriolan, sur lequel je vais m'attarder un petit peu. Et en 64, le personnage de Mucius Scaevola. Alors Coriolan, c'est la terreur des gladiateurs. C'est un film où il n'y a ni terreur ni gladiateur d'ailleurs. Et Mucius Scaevola, c'est le colosse de Rome, un paradis en colosse de Rome,
Sergio
Leone. Alors, Mucius Scaevola, vous savez qui c'est.
Oui.
Et vos auditeurs doivent savoir qui c'est. C'est celui qui s'est brûlé la main parce que cette main s'était trempée et n'avait pas pu tuer le roi des Étrusques qui assiégeait Rome. Mais,
alors, donc c'est le gaucher.
Le gaucher, Mucius Scaevola. Mais Coriolan, c'est un film assez extraordinaire. C'est-à-dire que l'histoire de Coriolan, vous la connaissez, enfin, les spectateurs ne la connaissent pas forcément très bien, mais...
Ça pourrait être des spectateurs, mais ce sont d'abord des auditeurs, attention.
Des auditeurs, bien sûr. Bien sûr, dans mon esprit, les auditeurs sont spectateurs en même temps, parce qu'ils doivent voir les DVD que je leur conseille de voir. C'est une obligation, d'ailleurs. Donc, dans Coriolan, c'est un patricien romain qui n'a pas voulu faire la tournée des popotes et de serrer la main pour pouvoir être élu, donc il s'en va et il va rejoindre ses anciens ennemis, les Corioles, d'où le nom de Coriolan, qu'il avait vaincu une première fois. Donc il devient Coriolan et contre Rome, et au moment où il va rentrer dans Rome avec ses amis, sa femme et sa mère vient le supplier de ne pas trahir. Et donc, il ne rentrera pas dans Rome, et ensuite, il sera assassiné par les Corioles. C'est les Volsques.
En fait. Oui.
C'est les Volsques. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ce film que réalise un réalisateur de droite, il n'y en a pas beaucoup dans le peplum, Giorgio Ferroni, l'histoire, elle est tout à fait différente. C'est-à-dire que Coriolan est en train de prendre le pouvoir à Rome, mais il est empêché par un traître, c'est ça qui est intéressant, par un traître qui s'est allié à Coriolan. Ce traître, c'est un ennemi de l'intérieur. Et c'est le tribun de la plèbe.
Mmh.
Tout ça, ça passe. Sauf que, en 1963, à Rome, la Rome de 63, hein,
oui.
On a ce qu'on appelle l'alliance de la contre-nature, qui est de la démocratie chrétienne et des forces de droite. Ça va durer que 2 ans, cette alliance contre nature. Et Ferroni est farouchement contre cette alliance. D'où ce film où il montre qu'en fait, si vous faites intervenir les communistes dans un gouvernement romain, très bien de la plume, c'est les communistes, eh bien, on va à la catastrophe. Et il a raison d'ailleurs. 2 ans après, l'alliance est rompue totalement. Vous voyez comment, avec la différence de Sivriz, l'idéologie baigne beaucoup de péplum et beaucoup de fil où joue Gordon Scott. Mais on est en 64-65, c'est fini. Il a 39 ans. Il prend sa retraite. Sauf que, hein, qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a été Hercule Tarzan Buffalo Bill? Eh bien, descendre la pompe.
Donc, après avoir été dans la grande pompe, on descend à la petite.
On descend la pompe, si vous voulez. Et Gordon Scott, qui meurt en 2007, eh ben, finalement, meurt dans la misère. Totalement oublié, il n'a pas de ranch, il n'a pas d'admirateur. Tout le monde a oublié qui est Gordon Scott. Et moi, je pense qu'il faut plus qu'à Steve Reeves, pour lequel j'ai beaucoup d'affection, bien sûr, mais il faut lui rendre hommage. Il faut voir les films avec Gordon Scott, qui est un athlète extraordinaire et un excellent acteur. Steve Reeves n'est peut-être pas forcément un bon acteur, mais Gordon Scott a été capable de jouer pratiquement tous les rôles mythiques du répertoire. Mmh. Voilà pour Scott.
Eh bien, on n'a plus qu'à non pas aller au cinéma, c'est pas là qu'on va aller voir, si ce n'est dans des cinémathèques, mais retourner à ces bons vieux DVD.
Oui, DVD, absolument. Vous avez pratiquement tous ces films que j'ai cités pour Reeves et pour Scott se trouvent en DVD.
Eh bien, merci beaucoup, Claude Aziza, et puis pour un prochain anniversaire, peut-être. Alors,
certainement, parce que je vous signale tout de suite que l'année 2026 est riche en acteurs ayant joué dans des péplums. J'ai pris les deux plus célèbres.
Hein, d'accord.
Parce que c'est janvier pour janvier 26 pour Reeves, avril 26 pour Scott.
Bon, donc on va se régaler. On se dit donc à bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.